Bonjour, bonjour. Ouf! Croyez-vous que le Seigneur dirige les choses par l'Esprit? Ce matin, là, encore des preuves. Le partage de Suzanne, et puis après ça, premier chant, c'est quoi? Nous sommes l'armée du roi. Et alors, de quoi qu'on parle ce matin? La guerre. J'ai aimé la prière de Christian aussi, ça m'a touché beaucoup. Et oui, le sujet ce matin, la guerre, une réalité. Et là, je parle pas de la guerre dans le monde, bien sûr. Ça aussi, c'est une réalité. Il y en a toujours un petit peu, à cause que l'homme étant l'homme. C'est pas de cette guerre-là que je parle. Non, la guerre spirituelle. Et puis, j'ai pensé à ça parce que cette semaine, dans le livre qu'on lit ensemble avec le pasteur puis le ministère SVP, c'était le sujet du chapitre, justement. Et puis je me suis dit, oui, trop souvent, on n'en parle pas. On veut avoir les choses positives, on veut avoir les belles choses, mais les choses qui sont plus difficiles, ça, on n'en parle pas. Et le problème de ça, c'est que si on n'en parle pas, ben on a l'impression qu'on est seul à les vivre, alors que c'est pas le cas. Hein? Donc, faut en parler. Pourquoi faut en parler? Ben, parce que ça fait partie de la Bible. Et on veut parler de ce que la Bible parle. Hein? On va tout enseigner ce qu'il y a. Donc, on a divers ennemis contre qui on va combattre. Et on va en parler dans les prochaines semaines parce que, Dieu voulant, je vais prêcher quand même 3 fois dans les prochaines quelques semaines. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le temps de faire une série. Alors, on va parler ce matin de la réalité de la guerre. On va parler des autres semaines, c'est qui les ennemis, les différents ennemis et les armes ou les moyens qu'on a pour se défendre contre ces ennemis-là dans la guerre qu'on va vivre. Donc, différentes parties. Aujourd'hui, c'est un peu une introduction à tout ça. Donc, oui, la guerre, c'est une réalité qui est très présente dans la Bible. Puis là, je parle pas de l'Ancien Testament, bien sûr, où ce que Israël est en guerre fréquemment contre d'autres peuples qui l'attaquent et tout ça. Pas cette guerre-là, je parle. La guerre spirituelle, qui est surtout présente dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien. Mais je vais me concentrer sur le Nouveau Testament pas mal ce matin. Si on parle de la guerre, comme je disais, c'est pour 2 raisons. Première raison, ben oui, la Bible en parle. Et comme je vous disais tantôt, ben, on essaie ici, dans la manière du possible, en tout cas, de toujours, là, je viens de voir que le micro t'as pas allumé, hein. Josué, t'as pas de garder ça. Donc, la guerre, la Bible en parle et si la Bible en parle, on va en parler. On veut pas mettre de côté certains sujets parce que, ça pourrait ne pas plaire à certaines personnes. C'est pas des sujets populaires. On veut juste prêcher des choses populaires, ça va attirer les gens. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on amène les vraies choses de la parole, puis des choses qu'on vit tous dans le quotidien aussi. Hein? Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que le sujet, justement, il est parfois mal interprété dans les églises et je veux ramener un petit peu, si je peux dire ça comme ça, ce que la Bible dit vraiment de ce sujet-là, et non pas ce que les gens disent ou ce que les gens veulent entendre ou quoi que ce soit. Donc, il y a différents points de vue sur cette guerre-là. Aux deux opposés, je vais dire ça comme ça, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de guerre, spirituellement parlant, bien sûr. Il n'y a pas de guerre. Jésus a tout accompli à la croix, Jésus a vaincu le malin, la victoire est là, donc la guerre est finie. OK? Et on va parfois se fier sur certains passages, comme exemple ici, j'ai Colossiens 2,15. Hein? C'est qui nous dit que Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc oui, le Seigneur, il a déjà triomphé. Le Seigneur, il a accompli la prophétie de Genèse qui a écrasé la tête du serpent. C'est fait. La victoire est là. Et pourtant, Et pourtant, si je prends les paroles de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'il dit? Hébreux 2:8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Sous les pieds de Dieu, de Jésus. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Ça, c'est comme le salut, hein? On va dire qu'on est sauvé, oui, mais on est sauvé en espérance, parce que la pleine réalisation du salut, on va l'avoir juste lorsqu'on va être avec lui. Donc, c'est un peu la même chose ici. La victoire, on l'a. La fin de l'histoire, on la connaît. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a décidé de s'arranger pour pas qu'on vienne chrétien et boum, tout est réglé. On vient chrétien, les problèmes sont réglés. Soit qu'on va directement au ciel ou soit qu'on reste sur la terre, mais d'une manière ou d'une autre, tout est parfait. On est de retour au jardin d'Éden. Une belle petite marche dans le parc. Tout est bien. Belle petite brise. Puis d'ouragan, peu de tempête. Tout va bien. Hein? On aimerait ça, honnêtement. On aimerait ça si c'était comme ça. Imaginez-vous comment ça serait facile de parler de l'Évangile à quelqu'un si, « Hey, t'as des problèmes, mon chum? Viens à Jésus, plus de problème. » Hein? Ça serait populaire. Je pense qu'on aurait plus de misère à évangéliser. Hein? On faudrait embrasser des plus grosses églises, probablement. Et pourtant, il y en a que c'est ça le message. Il y en a que c'est ça qui vont essayer de mettre de l'avant. T'as des problèmes, viens à Jésus, les problèmes disparaissent. C'est pas ça que je vois dans la réalité, pourtant. Malheureusement, c'est pas ça que je vois dans la réalité. Seigneur, il a voulu que ce soit un processus, comme j'ai dit. Il y a une petite variante de ça. Il y en a qui, bien sûr, qui n'iront pas à cet extrême-là. Voyons donc, dire qu'il n'y a pas de combat. Il y a un combat. Il va être bien enclin à dire qu'il y a un combat, justement. Et il aime ça, le combat, parce qu'on a la victoire. Au nom de Jésus! Ah, au nom de Jésus, sors de ta chaise roulante. Au nom de Jésus, il n'y a plus de problème. Les maladies sont guéries. Au nom de Jésus, tu n'as plus de difficultés avec le péché, etc. Formule magique. Hein? Ou par le pouvoir que le Seigneur me donne. Vous avez peut-être déjà entendu des choses comme ça. Et là, ça devient tellement facile, là. Oui, il y a un combat, mais le combat, quoi? Facile. Dieu vécu. Moi, je suis pas capable, mais Dieu peut. Alors, tiens, fini. Formule magique. Au nom de Jésus, les problèmes sont partis. Encore une fois, ça serait plaisant si ça serait comme ça, mais c'est pas ça que je vois. Malheureusement, d'une certaine manière, parce que j'aimerais bien ça moi aussi, mais c'est pas ça que je vois. Non pas que c'est faux, en passant, hein? Je dis pas que le Seigneur nous a pas donné cette puissance-là, je dis pas que le Seigneur a pas vaincu, etc. Ce que je m'élève contre, c'est un automatisme de dire, tiens, les problèmes sont tous réglés, mon homme. Et ce que ça donne, pour ceux qui l'ont vécu peut-être, c'est une condamnation. Parce que, oups, qu'est-ce qui se produit quand moi, c'est pas ça que je vois dans ma vie. J'ai bien beau prier, j'ai bien beau dire au nom de Jésus, quoi que ce soit, mais le problème, il se tasse pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, prie plus. Ah, tu manques de foi. Et là, ça amène une condamnation, un fardeau sur les épaules des chrétiens, plutôt qu'une libération. Et ça, j'ai vu ça trop souvent. Trop souvent. Et encore une fois, je suis pas contre ça dans certaines circonstances. Je suis contre ça quand c'est un automatique et que ça s'applique à tout. Paul lui-même, hein? S'il y en a un qu'on écoute et qu'on suit, c'est Jésus-Christ. Mais Paul nous a laissé un tonne d'enseignements. Paul est un modèle en bien des choses. Il l'a dit lui-même, hein, de suivre son modèle. Et pourtant, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit, lui? 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Il parle de toutes les révélations qu'il y a eues et il dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » S'il y en a un qui aurait pu être enflé d'orgueil, c'est bien lui. « À cause de l'excellence de ces révélations, Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Gloire à Dieu. Parce qu'il aurait pu s'enorgueillir. Hein? 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Prie plus, Paul, prie plus. Tu manques de foi. 3 fois, c'est peut-être passé. Hein? Non. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Cette écharde, cet ange de Satan. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Ma grâce te suffit. Pourquoi? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pas le message le plus populaire, ça. Ma grâce te suffit. C'est assez. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Et même si ce n'était pas suffisant, il donne une raison. Ma puissance, la puissance de Dieu, s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que j'ai cité 10? Non, hein? Mais je pense que c'est dans le 10 qu'il dit « Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses. Hein? » Parce que c'est quand on est faible que Dieu peut agir. Pourquoi c'est quand on est faible que Dieu peut agir? Bien, parce que quand on n'est pas faible, on a l'impression que c'est nous autres qui agit. On ne laisse pas Dieu agir, on prend la place. Je suis capable. Je suis fort. Et qu'est-ce qui se produit dans ce temps-là? L'orgueil, oui. Et Dieu, il est assez bon pour qu'on nous faire se planter. Parce qu'il ne veut pas qu'on reste dans l'orgueil. Et l'on devient dépendant de lui. Parce que c'est là la bonne place. Ma grâce te suffit. Moi, c'est une belle phrase. Hein? Je pense à l'aider pour vous autres aussi, avec les amens que j'ai entendus. Hein? Ma grâce te suffit. Non pas que Dieu ne veut pas qu'on soit libéré des épreuves, des souffrances ou quoi que ce soit. C'est pas ça l'idée. Mais si c'est le cas, c'est un bonus. Parce que la grâce est suffisante. C'est ça la différence. La délivrance, ce n'est pas le but en soi. Le but, c'est de glorifier Dieu, puis que sa puissance puisse s'accomplir, que son nom puisse être glorifié. C'est ça le but premier. Si on est délivré, gloire à Dieu tout simplement. On va pouvoir le proclamer par la suite. Si on ne l'est pas, on peut le proclamer au travers la souffrance. Comme j'ai dit, j'ai mis de la prière Christian tantôt. Hein? Dans les épreuves, les souffrances, les tentations, peu importe, la présence de Dieu, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui nous aide, qui nous relève, qui nous soutient. Et j'aime bien mieux avoir l'épreuve ou la souffrance avec Dieu que la paix et la petite marche dans le parc sans Dieu. Amen. Donc ça, c'est le premier côté. L'autre opposé, parce que là, le deuxième point, c'était juste une variante, c'était pas l'opposé. L'opposé de ça, c'est quoi? On gagnera jamais. C'est impossible de gagner. Pourquoi se battre? Je peux pas vaincre Satan. Je peux pas vaincre ma chair. Tant que je vais être sur cette terre, je vais avoir ma chair. Je peux pas la combattre. Je peux pas gagner sur elle. Ça donne quoi de se battre? Et on lâche les armes avant même de combattre. Ça, c'est plus subtil un petit peu, je pense. Hein? Ben, les deux sont subtils, hein? Parce que l'autre, on sert la parole de Dieu, des fois, de la mauvaise façon. Celle-là, ben, c'est plus subtil dans le sens que ça vient de façon pernicieuse. C'est pas, on prend pas une décision du jour au lendemain, bon, j'arrête de me battre. Mais tranquillement, le découragement arrive. On arrête de combattre. C'est plus difficile. J'en ai assez, je suis épuisé. Je suis au bout de mes forces. Ah! Je suis faible. Qu'est-ce que tu dis? C'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu peut s'accomplir. Amen. Donc oui, on a des limites, nous autres. Lui, il n'y en a pas. Il faut se confier à lui dans ces conditions-là. Absolument, on a besoin de Dieu, on a besoin de la puissance de Dieu, on a besoin du réconfort de Dieu et les uns des autres en passant. Les uns des autres. Par la prière, oui, mais par notre présence aussi, par nos actions. Les fameux « T'as des problèmes, moi, je vais prier pour toi. » Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que ça reste là? Lisez Jacques pour le fun. Hein? Mange, bois, réchauffe-toi, puis que Dieu te bénisse. Mais quand tu ne fais pas rien pour l'aider, qu'est-ce que Jacques dit? Cette fois-là est vaine. Elle ne sert à rien. On a notre rôle à jouer aussi. Je déborde de mes notes énormément ce matin, puis c'est ça que je voulais de toute façon, c'était ça ma prière. Donc, je suis bien content. On a notre rôle à jouer nous autres ici. Il ne faut pas le négliger, ça. C'est pas, on prie le Seigneur, puis lui s'arrangera avec ça, moi, j'ai rien à faire. Important. Donc, c'est pas ça non plus la solution de dire, ben, on n'est pas capable, on abandonne. Dieu nous demande de combattre. Et c'est un petit peu ça mon premier but ce matin, de vous montrer que la parole de Dieu en parle. C'est une réalité que les hommes de Dieu, dans la parole, les femmes de Dieu ont vécu eux autres aussi. C'est pas quelque chose d'anormal. Et justement, s'opposer un petit peu en même temps à ceux qui veulent essayer de minimiser ça ou de taire ça, comme de quoi que ça devrait pas être le cas. Bien sûr, je n'ai pas cité toutes les passages, hein, j'en ai choisi quelques-uns. Donc, je vais y aller pour débuter, en tout cas, avec l'ordre qui apparaît dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Le premier passage. Hop, j'ai copié ça là deux fois. Voilà. Jean 16, 33. C'est Jésus lui-même qui parle. Ça commence bien avec Jésus. Il parle à ses disciples dans l'intimité, hein. Il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean accélère les choses beaucoup, hein, dès le chapitre 17, c'est le repas, le dernier repas et tout ça. Donc, c'est déjà vers la fin de son ministère, ça, là, à la fin de sa vie terrestre. Et ce qu'il leur dit, c'est que je m'en vais bientôt, hein. Mais il les avertit d'avance. Et c'est ce que j'aime. Une des choses que j'aime de la Bible. Il ne cache pas les choses. Il n'essaie pas de jouer du violon et de dire, ça va être beau, ça va être facile, il n'y aura pas de problème, je vous envoie mon Saint-Esprit, ça va être beau. Même pendant que Jésus était à sa terre, ce n'était pas nécessairement facile, hein, pour lui et pour ses disciples. Humainement parlant, du moins. Il les avertit qu'ils vont avoir des tribulations. Mais il les avertit aussi que lui, il a vaincu le monde. Puis c'est pas une bonne nouvelle de dire, « Hey, tu vas avoir des problèmes, mon homme. Je m'en vais, là, puis je vous laisse tout seul dans le trouble. » C'est pas tout à fait ça. Hein? Je pense pas qu'il ait perçu nécessairement ça comme une bonne nouvelle. Hein? S'il arrêterait là, vous aurez des tribulations. Aïe! Non. Prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. Et il va dire aussi dans Matthieu, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Hein? » Donc, c'est pas, il nous laisse avec les troubles, puis il s'en va. Non, non. Il est avec nous autres. Il est avec nous autres dans ces choses-là. Il est avec nous autres dans le combat. Je vous dirais même que c'est le général qui est en avant. Il n'est pas à l'arrière. Hein? Il a déjà vaincu le monde. Je saute dans un passage de Corinthiens que Paul, bien sûr, qui nous parle. Il exhorte les Corinthiens vers la fin du premier livre. Il dit ceci, « Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. » Quatre choses, hein? Veillez, demeurez fermes, soyez des hommes, fortifiez-vous. Oh, ça peut s'adresser aux femmes aussi, en passant. Hein? Pourquoi tu leur demanderais de veiller puis de demeurer fermes si tout était facile? S'il leur demande de veiller, de demeurer ferme, de se fortifier, c'est parce que, premièrement, ce n'est pas naturel. Le découragement est beaucoup plus facile. Ce n'est pas celui qui abandonne les armes et qui se laisse vaincre qui est plus courageux. C'est celui qui se bat jusqu'à la mort s'il faut. Donc, ce n'est pas, certainement pas la voie la plus facile de demeurer ferme et de se battre. Il leur demande aussi de veiller. Pourquoi? Parce que c'est un combat. C'est sournois. Ça nous attend au coin de la rue, des fois, quand on s'y attend le moins. Hein? Qu'est-ce que Pierre va dire? Soyez sobre. Sobre ici, c'est pas nécessairement juste l'absence d'alcool. Hein? D'être sobre, c'est d'être aux aguets, d'être bien réveillé, d'être sur nos gardes, de veiller. Pourquoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les petites bandes dessinées comme on a en arrière, il y en a quelques-unes. Je vous disais ça quand j'étais adolescent. Puis dans l'une, justement, ça s'adresse plus à des chrétiens, puis justement, certaines églises qui préclament ça un petit peu comme ça, hein. Satan, il n'y a pas de problème. Il est vaincu, Satan. Facile, là, tu sais. Un petit chat, un petit poussicat, qu'on dit en anglais, hein. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Lion rugissant. J'en ai jamais rencontré en personne, Dieu merci. Je pense que je ne voudrais pas, hein? Je pense qu'il n'y a pas personne qui voudrait rencontrer face à face en personne. Là. Un lion qui est rugissant. C'est pas une petite affaire facile. Il est affamé. S'il cherche qui va dévorer, c'est parce qu'il est affamé. Un lion, je n'ai pas étudié la zoologie, là, mais quand il n'est pas affamé, je pense qu'il est pas mal tout à coup en train de dormir. S'il rôde, rugissant, c'est parce qu'il a faim. Il cherche une proie. Soyons pas sa proie. Soyons sur nos gardes, être prêts à se défendre. Si je continue, résistez-lui avec une foi ferme. Première chose, il faut lui résister. Après avoir été vaillant, quand on le voit arriver, il faut lui résister avec une foi ferme. Bouclier de la foi, on en parlait plus tard. Hein? Il faut lui résister. Et j'aime le reste de la phrase, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Devinez quoi, vous n'êtes pas les seuls. C'est pas une exception, c'est pas parce que vous manquez de foi, vous n'êtes pas des mauvais chrétiens. Dans la même bande dessinée que je parlais tantôt, il y avait une espèce de message, on voit l'apôtre Paul tout à haillons, tout en train de épuisé et tout ça parce qu'il est en prison. Puis les autres qui lui disent de la fenêtre de la prison, hein, t'es un mauvais apôtre, Paul, là. Lousy apostle, lousy, je sais pas comment on peut le traduire, là, mais paresseux, ouais. Ouais, t'es pas bon, là. Qu'est-ce que tu fais en prison, là? Hein? Vois si ça glorifie Dieu que t'es en prison. Et c'est là qu'il écrit les plus belles épîtres, hein. S'il n'aurait pas été en prison, il n'aurait pas écrit ces épîtres-là. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. On aimerait ça leur traduire différemment ce verset-là. Hein? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est encourageant. Hein? Ça, c'est positif. La petite parenthèse après que vous aurez souffert un peu de temps, celle-là, on l'est moins. Hein? Et le peu, on le trouve des fois que c'est long. Aux yeux de Dieu, hein, un jour c'est comme 1000 ans, donc c'est un peu de temps. Nous autres, des fois, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas un peu de temps nos yeux. Si on compare à l'éternité, ça commence à être pas mal peu, par exemple. Ça fait partie de la réalité, de la vie chrétienne. Mais c'est un encouragement, pas la souffrance qui est un encouragement nécessairement dans ce cas-ci, mais qu'est-ce qui vient par après? Avec cette souffrance-là, il va faire quoi? Il va nous perfectionner. C'est pas ça le but de l'épreuve, c'est pas ça le but des combats, nous perfectionner. Un soldat qui fait juste se pratiquer dans sa chambre, ça s'améliorera pas vraiment. On doit être exercé au combat, a dit un passage, hein, me semble. À force de combattre, on s'améliore. Quand on commence la vie dans l'armée, pense pas qu'ils nous mettent au front tout de suite. Hein? On commence un peu plus loin, puis on apprend. On améliore nos qualités, nos skills, nos aptitudes. Ouais. Et plus que ça va, plus qu'on devient efficace au combat. Bien, c'est la même chose, hein? Lui va nous perfectionner, lui-même. Quand tu dis que tu es enseigné par le meilleur, hein? C'est comme ça que tu deviens meilleur, bien, c'est lui-même qui va nous perfectionner. C'est lui-même qui va nous affermir. C'est lui-même qui va nous fortifier, puis qui va nous rendre inébranlables. Il n'y a plus rien qui va nous atteindre à un certain point, à un moment donné. Et si ça fait des années que vous êtes chrétien, peut-être que vous l'avez vu. Quelque chose qui aurait été pour vous autres, début de la vie chrétienne, parfois peut-être une petite mauvaise nouvelle vous aurait peut-être ébranlé. Aujourd'hui, comme on dit, on en a vu d'autres. Hein? On a vu Dieu agir, mais on est rendu plus solide qu'on était. Peut-être pas encore inébranlable, mais devinez quoi, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Dieu n'a pas fini son œuvre. On sait qu'il va l'achever, mais pour l'instant, il n'est pas fini. Donc, un jour, on est inébranlable. Quelques passages encore. Philippiens 1, 27 à 30. Paul exhorte de sa prison. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, parce que présentement il est absent, il est en prison, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Ah, il y a non ça, il faut combattre. Combattant dans un même esprit, ferme dans un même esprit, pardon, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Mais oui, il y en a plus qu'un. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, le fait qu'on ne soit pas ébranlé et qu'on combatte. Et cela vient de Dieu. Quoi? Attends un petit peu, est-ce qu'on a bien lu? Cela vient de Dieu. Oh, même lui fait silence. Cela vient de Dieu. On pense que les mauvaises choses viennent du diable, les bonnes choses viennent de Dieu. Non. Ah, les épreuves, les difficultés, l'adversité vient de Dieu. Pour moi, c'est pas un livre inspiré, ça, Philippiens. Hein? Cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il vous a été fait la grâce de souffrir pour lui. En Amérique du Nord, de nos jours, en 2026, on essaie plutôt d'éviter ça, me semble, hein? Souffrir pour lui. Puis qu'est-ce qu'il dit ici? C'est une grâce qui nous a été faite. Wow! Ça se peut-tu qu'il y ait des grâces qu'on ne veut pas des fois? On essaie d'éviter cette souffrance-là. Et là, je ne parle pas des épreuves, je vais en reparler tantôt. Tribulation, vraiment, la souffrance-là. Est-ce qu'on voit ça comme une grâce ou on essaie de l'éviter le plus possible? Répondez-moi pas, je vais me répondre moi-même. Est-ce que c'est une grâce de souffrir pour lui? Ou c'est une grâce d'éviter la souffrance? En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, en d'autres termes, Paul aussi a passé par là avant, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Comme je vous dis, il est en prison quand il écrit ça, Paul. Et c'était certainement pas la belle chose en prison. Hein? De nos jours, en prison, on se nourrit, bien logé et tout. Il travaille, etc. On se demande des fois si c'est un châtiment. Je pense pas qu'il y avait des bonnes conditions à cette époque-là. Et pourtant, Philippiens est appelé comment? L'épître de la joie. C'est dans Philippiens 4:4, hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul est en prison quand il écrit ça. Il a été fait la grâce de souffrir. Comme j'ai écrit encore une fois, la Bible, ce que j'aime de la Bible, elle ne cache pas les choses. Ça serait bien plus facile de dire « tout va être beau ». Ça pourrait être vrai, Dieu ne l'a pas choisi comme ça. Il a choisi de continuer à nous raffiner. Je n'ai pas écrit les passages, mais Pierre parle de nous raffiner comme de l'or. L'or est éprouvé par le feu. Est-ce que c'est précieux de l'or? À te garder marché boursier et tout ça, qu'est-ce qui fait que le dollar canadien, il vaut tant ou quoi que ce soit? C'est la réserve d'or. C'est précieux de l'or. On est précieux comme ça aux yeux de Dieu. Mais il doit nous raffiner comme l'or. Encore une fois, il a choisi que ce soit un processus. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas un processus, on ne pourrait pas aller vers les autres, on ne pourrait pas aider les autres, parce qu'on ne comprendrait pas ce qu'ils vivent, on ne vivrait pas. Tu sais, la fameuse phrase qu'on entend cet assis, je ne sais pas si vous l'avez entendue, moi ça me fait, j'ai de la misère un petit peu avec ça, mais bon, on a parlé avec ma femme à un moment donné. Maintenant, on dit plus « je comprends », c'est « je t'entends hein? ». Non, je t'entends. J'entends ce que tu dis. J'espère que t'entends, t'es pas sourd, non? Ah, parce qu'on peut pas dire « je comprends » si tu l'as pas vécu. OK. Ben, c'est ça. Si on vit les choses, on peut comprendre, on peut aider, on peut avoir de la compassion. Comme Jésus, il a souffert, hein? Il a souffert la croix, oui, mais il a pas juste souffert la croix, il a souffert toute sa vie. Comme dit Hébreux, il était tenté à toute chose, sans jamais pécher, pour pouvoir justement compatir, nous aider, nous soutenir dans nos faiblesses. Ceux qui essaient de faire croire que l'Évangile, c'est facile, que tout est beau, tu viens à Jésus, tous tes problèmes sont réglés, on appelle ça, moi j'appelle ça en tout cas un Évangile bonbon. Je sais pas, ma sœur va rire peut-être, elle est en train d'écouter en ligne, là, mais quand j'étais jeune, il y avait un film que vous avez peut-être vu. Je ne sais pas si c'est celui-là. J'ai eu tantôt l'inspiration. Non, pas l'inspiration, mais je ne sais pas si vous avez connu le film. Je pense que c'est Chitty Chitty Bang Bang. Hein? La voiture volante, c'est un film des années 30, je pense. Là. Je ne sais pas si c'est dans ce film-là, mais en tout cas, là, le point où est-ce que je vais en venir... Un homme méchant, c'est un film pour enfants, hein? Un homme méchant qui attirait les enfants avec des bonbons. Et quand ils avaient attiré, qu'est-ce qu'il faisait? Il les enfermait dans une espèce de camionnette et il les kidnappait. Qu'est-ce qu'on disait à nos enfants? Hein? Parlez pas des étrangers. Je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, cette idée-là est là, ça c'est sûr. Les attirer par les bonbons. Est-ce que c'est ça le genre d'évangile qu'on veut? Les attirer par les bonbons, mais pour après ça, juste les pourrir? Pourrir les dents ou les kidnapper? C'est ce que Satan fait. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu dit la vérité. Dieu dit quoi? Il dit, avant de construire la tour, assieds-toi puis calcule. Assure-toi que tu as les moyens de la terminer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Crois, Seigneur Jésus, tu vas te sauver. OK, je crois, c'est facile, fini. Non, c'est avec le début. C'est un combat, la vie chrétienne. C'est un combat. Un combat qui en vaut la peine. Un combat qui a un résultat. Mais c'est un combat quand même. Hein? J'écris, ne vous laissez pas prendre par la pomme empoisonnée. Hein? Je pense à Blanche-Neige. Hein? La sorcière arrive avec une belle pomme. Es-tu belle, la pomme, hein? Quand elle mord dedans, c'est moins beau. J'écris ici, oui, certains hommes de Dieu, pleins de cicatrices, et j'insiste, pleins de cicatrices, pourraient venir dire que la vie chrétienne est facile. Pourquoi? Parce que, comme dit la Bible, ils ont les yeux fixés sur Christ. Oui, on peut dire, dans une certaine perspective, que la vie chrétienne est facile. Pourquoi? Parce que comparativement à l'autre chose, premièrement, on a Christ. Premièrement. Deuxièmement, on compare à ce que ça serait sans Christ. Si vous trouvez ça difficile avec Christ, imaginez-vous sans Christ. Ah, dans cette perspective-là, oui. La vie chrétienne peut être facile. Je préfère celle-là de loin. Ils ont les yeux fixés sur Christ et sur le prix final. Et ça, on va en parler tantôt un petit peu, le prix final. Ils sont aussi conscients que la vie serait bien prise dans les bras de Satan, comme je vous dis. On pourrait avoir moins de difficultés sur la terre, mais, comme dit Paul, et c'est là justement qu'on peut dire, jusqu'à certains points, que c'est facile, ou en tout cas, si c'est pas que c'est facile, que ça n'en vaut la peine. J'estime, Romains 8, 18, que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui, il y a des souffrances dans le temps présent, mais si on compare avec ce qui s'en vient, ah là, hein? Il y a un accouchement, il n'y a pas si longtemps, il y en a un autre qui s'en vient. Si vous avez passé par là, mesdames, vous savez, c'est souffrant. Mais qu'est-ce que dit Paul lui-même? Si je paraphrase, une fois qu'on a le bébé dans les bras, on oublie toutes les souffrances qu'on a endurées. Hein? Donc, c'est rien comparativement à ce que la gloire à venir. Vous savez, le coup vous avez le bébé dans les bras, là, toute la souffrance disparaît. Ça fait rien commencer, ça aussi. Ça, c'est comme le processus de la vie chrétienne. Mais il y a des joies. Il y a plus de joies, sinon on ne le ferait pas. Hein? Mais ça aussi, il y a des difficultés. Ah, vous voyez? La comparaison, là aussi. Continue, Philippiens 2, 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Je vais citer quelques versets sans trop commenter, là. Mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Encore une fois, Paul il fait allusion à un combat. Puis, il y a plusieurs mots pour combat, combattre et tout ça, mais ce mot-là ici, j'ai pris la peine de te garder celui-là. Pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, le mot combat ici, en grec, c'est le mot agon. Agon, agon, en tout cas. Mot de la même famille, agonia. Ça vous donne une petite idée? Agonie. Le combat est une agonie. Soyez pas surpris si vous souffrez, si ça fait mal. C'est une agonie. Paul en est conscient. Dieu en est conscient aussi. Colossiens, je veux en effet que vous sachiez combien grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Paul combattait pour les églises. Colossiens 4, 12. Épaphras, encore lui, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Pas juste un ou deux. Bien des combats. 2 Thessaloniciens 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance. Vous n'aurez pas besoin de persévérance, ça serait facile. À cause de votre persévérance et votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Paul remerciait Dieu pour leur foi qui était ferme au travers ces persécutions-là. Et j'arrive à un de mes passages que j'aime beaucoup, un de mes passages préférés sur ce sujet-là, du moins, en tout cas, 1 Pierre 4, 12. Mes bien-aimés, Pierre qui s'adresse à eux, hein, comme l'ancien, comme il le dit lui-même, il les prend comme ses petits-enfants. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Hein, la fournaise, Plume en a parlé il n'y a pas si longtemps, hein? Les trois amis dans la fournaise ardente. Qu'est-ce que je dis toujours de cette histoire-là? Dieu n'a pas délivré les trois amis de la fournaise. Il les a délivrés dans la fournaise. Grosse différence. Ça n'aurait pas eu le même impact s'ils auraient délivré de la fournaise. Ça n'aurait pas eu le même impact sur le roi non plus. Et il n'y aurait jamais eu le quatrième être, qui était Jésus lui-même probablement, qui marchait avec eux autres. Ne trouvez pas ça étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Quand il va revenir, comme le dit dans le passage, hein, est-ce qu'il va nous trouver en train de travailler, en train de combattre, ou assis en train de relaxer? Je pense qu'on va être pas mal plus fiers, je ne sais pas si le terme est bon, content, heureux, satisfait, s'il nous trouve en train de combattre pour lui qu'en train de relaxer puis d'attendre. Comme celui qui a pris son denier, hein, son talent, puis qui l'a enterré. On va le laisser là, il ne bougera pas. Si on est en train de combattre pour Dieu, le retour, la joie de le voir va être encore bien plus grande. Pourquoi c'est un de mes passages préférés? Bien, comme j'ai dit ici, hein, il démystifie toute l'idée que c'est une exception. Au contraire. Regardez pas ça comme quelque chose d'étrange, d'anormal, si vous préférez, d'exceptionnel. Le mot qui est utilisé ici pour étrange, c'est un étranger, un inconnu. C'est pas quelque chose d'inconnu. C'est pas quelque chose qui arrive une fois de temps en temps et qu'on n'est pas au courant. C'est du quotidien. C'est quelque chose de connu. Hein? J'en viens après ça à Paul. Paul y écrit quelques lettres très personnelles à Timothée puis à Tite, mais surtout à Timothée. Timothée, qui est celui qui a pris sous son aile, qui a formé, qui l'a accompagné dans ses voyages. Et les lettres que Paul a écrites sont parmi les lettres les plus intimes. Il révèle certaines choses, surtout dans 2 Timothée, parce qu'il est proche de sa mort. Et il répète quelque chose très fréquemment dans Timothée. On va le voir. Oh, j'ai-tu mis deux fois? OK, non. Je suis revenu en arrière, désolé. Timothée, il y a 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, Il mentionne à un moment donné hein, qu'il y a eu des prophéties sur lui quand il y a eu l'imposition des mains. C'est que d'après elle, d'après ces prophéties-là, tu combattes le bon combat. Et ça, c'est une phrase que Paul répète. Combat le bon combat. Il veut que tu combattes le bon combat. 1 Timothée 6:12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dans sa deuxième lettre, peu de temps avant de mourir sans doute, 2 Timothée 2:3 lui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Encore l'idée de souffrance, l'idée de soldat. Le soldat, qu'est-ce qu'il fait? Il combat. Et Paul lui-même, à la fin de sa vie, à la fin du chapitre, justement, à la fin du livre, il va pouvoir dire lui-même, « J'ai combattu le bon combat. » Il exhorte Timothée à quelques reprises, « Combat le bon combat. » Ben, il peut dire, comme il dit ailleurs, « Suis mon modèle, comme je suis moi-même le modèle de Christ. » Parce que lui-même, il a combattu le bon combat. « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Mais c'est quoi le bon combat? Si on veut combattre le bon combat, il faut savoir c'est quel combat. Alors, je vais essayer de faire ça vite, mais mettre une petite parenthèse ici. Combat, épreuve, tribulation, tentation. Je vais essayer de mettre une petite distinction entre épreuve et combat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, l'épreuve peut faire partie du combat, principalement pour des chrétiens. L'ennemi peut se servir des épreuves, mais ce n'est pas une automatique. Les épreuves sont quelque chose que monsieur et madame tout le monde aussi, même si sont non-croyants, vont vivre. Les non-croyants perdent leur emploi. Devinez quoi, ils sont malades eux aussi des fois. Etc. Donc, d'associer toutes ces choses-là à Satan, aussitôt qu'il y a une épreuve, Satan, on chasse Satan, puis l'épreuve va être éloignée? Non. Oui, Satan peut servir de ces choses-là. Oui, l'ennemi peut nous attaquer par ça. Mais comme je vous dis, ce n'est pas une automatique. Monsieur, madame, tout le monde vit ça. Pour moi, le combat, c'est quelque chose de quand même différent. Le combat spirituel, et ça, seuls les chrétiens peuvent le vivre. Alors que des épreuves, tout le monde peut le vivre. Les tentations, je pense que seulement les chrétiens peuvent le vivre. Le combat spirituel, seulement les chrétiens peuvent le vivre. Mais les épreuves, non. Donc, le bon combat, qu'est-ce qu'il dit Paul ici? Il parle du bon combat de la foi. Donc, c'est le bon combat qu'on vit dans la foi, c'est le bon combat pour Dieu, combat spirituel, qui est face aux tentations, face aux choses de la vie, à notre propre nature, etc. Et ça, on va le voir la prochaine fois. Mais qui est aussi le combat pour arracher les âmes de la puissance de l'ennemi, si on peut dire ça comme ça. Hein? On prend les bons termes chrétiens, là. Arracher les âmes, les faire entrer, aller chercher les brebis pour les faire entrer dans la bergerie, si vous voulez une image plus positive. Donc ça, c'est ce combat-là aussi qu'on est appelé à mener. Le combat aussi, bien sûr, vient du fait que, veut, veut pas, on a des ennemis. Et ça, on va en parler la prochaine fois. Mais si on a la foi, on est automatiquement à l'opposé de ces ennemis-là qui voudraient qu'on combatte leur combat à eux. Notre combat personnel, nos désirs personnels ou le combat de l'ennemi, l'adversaire. Le diable veut dire adversaire. Hein? S'il réussit à nous en faire combattre, s'il réussit à nous neutraliser, parce qu'il y a des guerres extérieures, puis il y a des guerres extérieures, s'il réussit à nous neutraliser, bien, il nous empêche de combattre pour Dieu. Il nous empêche d'aller chercher des armes. Il nous empêche de progresser ou d'aider les autres dans la communauté chrétienne, etc. Donc, il y a un combat là. Mais ça, on va en parler plus la prochaine fois. Je vais passer là-dessus. Et je voulais terminer avec la dernière guerre. On a parlé de notre guerre que nous autres on vit. Je veux vous amener à la dernière guerre. Pourquoi? Parce que justement, c'est là qu'est notre espérance. C'est là qu'on disait tout à l'heure que le combat il est déjà gagné d'avance. On connaît déjà la fin de l'histoire. Eh bien, ça vaut à peine, je pense, de la regarder. Parce que c'est un bel encouragement pour nous autres de combattre puis de savoir qu'est-ce qui nous attend. Donc, la guerre finale, c'est quoi? C'est la guerre en Apocalypse. L'Apocalypse en parle, certaines prophéties dans l'Ancien Testament aussi, Daniel et tout ça en parlent. Et on va en lire un petit peu, les derniers chapitres de l'Apocalypse. Chapitre 19, à partir du verset 11. Il dit, « Puis je vis, et c'est Jean qui parle, bien sûr, qui écrit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Si vous êtes comme moi, comme Plume un peu, on a déjà l'image, hein? Grandiose, des portes qui se rouvrent et tout ça. Cavalier qui arrive et c'est fidèle et véritable. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, des couronnes. Hein? Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et c'était pas son sang pour sang qui est sur le vêtement. Ben, c'est son sang, oui, mais son sang du sacrifice, à cause du sacrifice. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vous savez très bien que Jean mentionne que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et c'est lui qui est le témoin fidèle et véritable qu'on dit ailleurs. Les armées qui sont dans le ciel, les anges, possiblement nous-mêmes aussi, le suivait sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Toute tache a été enlevée. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse, un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » C'est une belle image. Dans la suite du récit, que je ne lirai pas, il va combattre, il va vaincre le faux prophète et la bête, et après ça, il va enchaîner Satan pendant 1000 ans. Il va avoir 1000 ans de paix. À la fin du 1000 ans, qu'est-ce qui se produit? Satan se révolte, et le feu descend du ciel et va le consumer, l'attaquer. Et là, on arrive à la conclusion. Je saute au chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Pensez au jour de vos noces, hein, ceux qui l'ont vécu. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Dieu lui-même, il va habiter avec le peuple. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Vous avez des larmes aujourd'hui, peut-être? Elles vont être essuyées. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il y en a peut-être aujourd'hui sur la terre? Mais un jour, il n'y en aura plus. Toutes ces choses-là vont disparaître. Parce qu'on va le voir tel qu'il est, comme dit ailleurs la parole. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Vous avez soif ce matin? Ésaïe 55 qui dit, venez, vous qui avez soif, sans argent, sans rien payer, venez, puis vous allez avoir l'eau abondante. Il parle de la vie éternelle, hein, comme il a parlé avec la Samaritaine, bien sûr, au puits. Il va donner de la source de la vie, gratuitement. Et en passant, quand il parle de la source, c'est pas une eau stagnante. L'eau stagnante qu'il y avait là-bas, hein, dans ces temps-là, surtout, t'as pas purifié, pour avoir des bactéries, tout ça. C'est à quoi l'eau qui parle? C'est une eau continue, comme une chute, comme une rivière, comme un cours d'eau. C'est ça quand il parle de l'eau abondante et tout ça. Elle se renouvelle constamment. Celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Vous voulez vaincre? Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et je saute encore une fois au chapitre suivant, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. J'aime quand même écouter une émission, ceux qui l'ont peut-être vu, Survivor Québec. Et là, quand ils arrivent souvent avec des épreuves, ils lui présentent, ceux qui ne connaissent pas l'émission, ils sont sur des îles et ils n'ont rien ou à peu près pour se nourrir, pour se vêtir, etc. Ils doivent réussir à survivre au travers de tout ça. Et là, une fois de temps en temps, ils ont des épreuves et l'équipe gagnante va avoir des récompenses. Et il dit toujours la même chose. Hein. Est-ce que ça vaut la peine de jouer pour ça? Eh bien, je vous pose la question ce matin. Est-ce que ça vaut la peine de combattre pour ça? Hein? Dieu va être avec nous. Pas que ça va être facile, mais la récompense est grande, bien plus grande que l'épreuve qu'on peut vivre présentement. On sait, comme j'ai écrit, on sait qu'on est dans le bon camp, si on a de son côté à lui. Et on connaît la fin de l'histoire, comme je vous ai dit. Donc, on peut, en connaissant la fin de la course, ça ne veut pas dire s'asseoir puis de laisser la course aller. On ne la gagnera pas. Hein? Ça veut dire continuer la course en sachant qu'on va avoir la victoire, en étant confiant. Et que même si c'est difficile, si on sait qu'on va gagner, je pense que j'ai déjà donné l'image, hein? Si on sait que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley, quand même qu'ils perdent deux matchs, ça ne nous dérange pas trop, hein? Ben c'est la même chose. On sait maintenant qu'on va gagner. Donc, on peut s'encourager au contraire puis continuer à se battre parce qu'on sait qu'on a la victoire. Donc, les prochaines fois, on va voir c'est quoi les ennemis, c'est quoi les armes qu'on peut avoir et tout ça. On va revenir avec ça, mais je veux vous encourager pour les prochaines semaines d'ici là, combattre le bon combat, comme disait Paul à Timothée. On fait venir l'équipe de louanges pour le dernier.